J'ai intitulé cette communication « Le révisionnisme négationnisme sur papier glacé » et j'avais donné un sous-titre « Tromperie sur la marchandise » à propos de deux revues d'histoire, donc j'ai immédiatement voulu les présenter. La première s'appelle « Enquête sur l'histoire ». La seconde s'appelle « La nouvelle revue d'histoire ». Celle-ci étant en quelque sorte la fille de la première. Ces deux revues, effectivement, existent depuis 15 ans. La première, Enquête sur l'histoire, a eu 30 numéros de 91 à 98, et la seconde, après donc une interruption de 4 ans, depuis 2002, existe toujours et toujours aujourd'hui en vente. Il y a eu 24 numéros parus. Les deux publications ont bien des points communs. D'abord, elles obéissent à la loi des revues de vulgarisation historique, ce qui, évidemment, dans ma bouche, dans mon esprit, n'a aucune valeur péjorative. Texte court, lecture facile, présentation aérée, iconographie abondante et de qualité, graphique, etc. Avec sans doute un plus par rapport à ses rivales, l'histoire, Historia ou notre histoire, un soin particulier à la présentation du papier glacé, je l'ai dit, bref, un luxe de bon aloi. Manifestement, leurs concepteurs et auteurs ne manquent pas de moyens. Aussi, furent-elles dans le cas de l'enquête sur l'histoire ou sont-elles dans le cas de la nouvelle revue historique aujourd'hui étaient disponibles ou sont disponibles et trônent respectables puisque voisines de revues sérieuses et connues dans les rayons culture-histoire de toutes les librairies de France distribuées par les NMPP. Le second point commun entre ces deux revues est dans les noyaux rédactionnels. Un individu que l'on se permettra de présenter avec force détail est dans les deux cas directeur de publication, Dominique Vénère. Certaines signatures reviennent très régulièrement. François-Georges Dreyfus, Bernard Lugan, Pierre Montagnon, Maître Jean-Marie Varro, Jean Mabir, Alain Sanders, etc. Mais pour faire bonne mesure, un certain nombre de ces noms, pour nous qui sommes des praticiens de l'histoire, on évoque quand même quelques engagements, mais pour faire bonne mesure, quelques intellectuels de renom, la plupart historiens, pas tous, sont régulièrement sollicités. Ainsi, sur les 15 années, j'ai recensé des très grands noms de la recherche ou de la vulgarisation de l'histoire ou d'autres sciences, par ordre alphabétique, Maurice Allais, Henri Amouroux, Alain Besançon, Hélène Carrère-Dancos, Stéphane Courtois, Jean Delumeau, Jacques Dupaquier, Jean Favier, Marc Fumaroli, Max Gallo, Jacques Gernet, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Marseille, Ernst Nolte, René Raymond, Jean Tullard. Tous ces gens ont signé des articles ou ont accordé des interviews à cette revue, parfois à plusieurs reprises. Savaient-ils précisément à qui ils avaient affaire? Nous voulons croire qu'une majorité d'entre eux a pu être piégée. Quant aux autres, on peut imaginer quelques noms qu'ils assument cette collaboration. Car derrière le papier glacé apparaît le visage grimaçant du révisionnisme-négationnisme. Ces deux revues ont été, ou sont, en fait, les porte-paroles officieux, masqués de l'offensive menée par les milieux les plus réactionnaires, souvent fascisants, du monde intellectuel français en vue de conquérir l'opinion. Les unes, certes, sont toujours illustrées d'une façon très agréable, toujours un portrait, et là aussi, mélange des genres tout à fait intelligents et savamment dosés, au milieu de grands hommes, Clovis, Henri IV, Bonaparte, De Gaulle, Mitterrand, certaines personnalités marquantes du monde du fascisme, du nazisme, de la collaboration, Hitler, Rommel, Mussolini, Maurras, Pétain, Céline. Je voudrais vous évoquer rapidement la biographie du principal responsable de cette revue, qui s'appelle Dominique Vénère. Il se présente comme historien, il n'est pas particulièrement connu comme collègue brillant, mais par contre il est connu pour les spécialistes de l'histoire de l'extrême droite, puisque c'est un spécimen tout à fait intéressant, un vecteur tout à fait intéressant de cette idéologie. Je vous retrace donc rapidement sa biographie. Il commence sa vie politique au sein de mouvement Jeune Nation. Il est l'adjoint direct de Pierre Sidos à partir de 1955. Il est à l'époque très jeune. J'ai pas en tête sa date de naissance, mais il a à peu près la trentaine à l'époque. Il se fait très vite remarquer par son ardeur et sa détermination. Et celui qui donne ce commentaire s'appelle Henri Coston, qui est également de la grande famille de l'extrême droite, pour ne pas dire de l'antisémitisme. Après la dissolution de Jeune Nation, Vénère est membre fondateur puis secrétaire général du Parti nationaliste, groupuscule anti-républicain, xénophobe et évidemment anticommuniste. Il est ensuite, il est également un homme d'action puisqu'il est également très très Algérie française au point d'être dans les réseaux OAS et d'être incarcéré à la santé entre avril 61 et octobre 62. Avril 61, c'est une date qui vous dit quelque chose. Donc, pour être incarcéré une quinzaine de mois à cette époque, il fallait quand même avoir plus que des sympathies. Il fallait être un activiste des milieux OAS. C'est en prison, d'ailleurs, qu'il rencontre Maurice Gingembre, trésorier occulte de l'OAS, avec lequel il se lie d'amitié. Relation bien utile, je vais peut-être essayer d'aller plus vite sur sa biographie, relation bien utile puisque lorsqu'il rencontre Maurice Gingembre, qui est donc ce trésorier occulte, ça lui permet à sa sortie de prison d'avoir quelques capitaux qui lui permettent de monter une maison d'édition qui s'appelle Saint-Just. Donc tout ce que je vous dis, évidemment, vous pouvez retrouver à la Bibliothèque nationale tous ces titres ou sur Internet même. La maison d'édition s'appelle Saint-Just, elle publie des ouvrages historiques de Roger Olindre, d'Alain de Benoît, de que je cite mes sources, François d'Orcival, Henri Prieur, Dominique Vénère de nouveau. Et les titres sont tout à fait explicites. Ce sont des titres toujours défense et illustration de l'œuvre, entre guillemets, de la France dans les colonies ou de l'armée française dans les deux guerres coloniales, et également dénonciation de l'incapacité des Africains à obtenir et à aspirer au développement, puisque l'un des titres de cette floraison, publication 1964, le titre est « Sous-développé, virgule, sous-capable ». Je n'invente rien. La guerre d'Algérie achevée, Vénère participe à la reconstruction de la droite extrême, plutôt en mauvais état. Il est dans les comités Tixévignon en cours. Il y rencontre François Brignot, un ancien forcené du vichysme, Michel de Saint-Pierre, Pierre Sergent, Georges Bidault, etc. Mais Vénère n'est pas seulement un théoricien de l'extrême droite, il est également un théoricien du recentrage sur l'idée d'Europe, ce qui lui vaudra un certain nombre de déboires et de polémiques assez vives. On est toujours le tiède de quelqu'un, le tiède d'un plus extrémiste. Et Vénère crée le mouvement Europe Action, donc il y a une sorte de mini-divorce avec la partie la plus nationaliste de l'extrême droite. Ce militant a également des prétentions intellectuelles. Il entend disputer à la gauche l'hégémonie culturelle. Je vous cite une étude d'un autre historien qui s'appelle Gwendal Chaton, dans une étude aux presses universitaires de Rennes récemment. Le projet de Dominique Vénère et d'une partie de la mouvance Europe Action est d'amorcer un gramschisme de droite qui vise à conquérir le pouvoir intellectuel avant le pouvoir politique. Donc toute la stratégie est là. C'est ce qui l'amène à créer un institut d'études occidentales dans lequel il rencontre Thierry Monnier, Raymond Aron, Jean Caud, Denis de Rougemont, François Brignot de nouveau, etc., etc. Il est membre fondateur du Grèce, etc. C'est donc dans cette perspective d'un gramschisme de droite, c'est-à-dire conquête des esprits, que Vénère va créer ses revues. Donc, vous voyez déjà le portrait de la cheville ouvrière qui, aujourd'hui encore, signe tous les éditos de la Nouvelle Revue d'Histoire. Donc, il a, on va dire, avec toute la révérence qu'on doit à l'âge, il a un petit peu de bouteille, mais il est toujours très actif. Donc, c'est toujours lui qui signe au moins un article par revue et toujours l'édito. Mais il est entouré d'une brochette de gens dont les parcours sont tout à fait intéressants et tout à fait identiques. Par exemple, un certain Pierre Montagnon. C'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose aux professionnels de l'histoire, quoique si on cherche son nom sur Google, on voit la référence historien, conférencier, lauréat de l'Académie française. Et il est par ailleurs auteur d'au moins une vingtaine de livres chez Pygmalion, tous sur l'histoire coloniale, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, l'épopée de la France, etc., etc., une quinzaine de livres. En fait, ce conférencier à la tête chenue aujourd'hui est en fait un des éléments factieux les plus en vue d'avril 61, chef militaire du maquis OAS de Loire-Zénis et l'un des hommes les plus recherchés de France. Il a été finalement arrêté en 62 et emprisonné quand même pendant 2 années. Plus connu du monde des historiens, un autre collaborateur très très régulier de la Nouvelle Revue d'Histoire, et là vous allez, j'imagine, sourire ou grimacer, je ne sais, Bernard Lugan. L'homme ne cache nullement ses liens avec l'extrême droite. Il y a une quinzaine d'années, il avait participé à la rédaction d'un agenda nationaliste préfacé par Léon de Grelle, et dans lequel écrivait, outre Lugan, François Brignot, le colonel Argout, le néo-nazi Jean-Gilles Milliarakis, etc. Lugan a d'ailleurs tenu également la revue L'Histoire à l'endroit, la rubrique L'Histoire à l'endroit dans Minute. mais c'est surtout dans, comme africaniste que Lugan s'est fait connaître. La thèse centrale qu'il défend est que l'Afrique est traversée depuis des temps immémoriaux par des rivalités tribales et que l'idée de nation a toujours été étrangère avant l'arrivée des Européens. L'autre thèse sous-jacente, jamais exprimée publiquement car elle pourrait tomber sous le coup de la loi, est l'infériorité naturelle des Noirs. Sous une forme moderne, Lugan ravive la vieille rengaine de l'incapacité de l'Africain à accepter toute rationalité. Heureusement, l'homme blanc est arrivé et la colonisation était une parenthèse heureuse, je cite l'expression de Lugan. Un autre universitaire, François-Georges Dreyfus, signe également, c'est un ancien membre du comité central du RPR, mais le RPR à l'époque lui paraissait peut-être un petit peu trop à gauche, et donc il a fait une dérive encore plus vers la droite, et il est devenu l'un des historiens de Vichy, et tenant une conférence, par exemple, « Le régime de Vichy, un élément de la culpabilisation des Français, point d'interrogation, au Club de l'Horloge ». Il est également l'un des dirigeant et fondateur de Laissez-les-vivre, le mouvement contre le droit à l'avortement. Je vais aller vite. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de trois collaborateurs extrêmement, quatre peut-être, collaborateurs extrêmement réguliers, mais je peux vous citer d'autres noms. Jean Mabir, que vous connaissez peut-être comme historien des Waffen-SS et de l'Allemagne nazie. L'avocat Jean-Marc Varro, qui est décédé, également des prétentions d'historien. Vous vous souvenez que Jean-Marc Varro avait défendu Papon. Alain Sanders, qui est présenté dans la Nouvelle Revue d'Histoire comme journaliste, alors qu'en réalité, il est rédacteur en chef de Présent, l'hebdomadaire du Front National. Pascal Gauchon, qui signe également. Pascal Gauchon a été président du Parti des Forces Nouvelles, etc., etc. Donc, j'en viens rapidement au contenu de ces revues. La question coloniale est omniprésente dans les deux revues. Il y a plusieurs numéros. Le numéro 2 d'Enquête sur l'histoire est consacré à l'OAS. Le numéro 8 que j'ai ici, l'aventure coloniale de la France. Numéro 12 de la Nouvelle Revue d'Histoire sur la guerre d'Indochine, etc., etc. Encore ne s'agit-il que des thèmes centraux. On peut dire que j'ai vu à peu près les 30 numéros des deux revues. Il n'y a jamais de numéro sans article sur la question coloniale ou sans critique approfondie sur les livres traitant de la question coloniale. Pour Dominique Vénère, par exemple, qui signe l'article leader du numéro spécial sur l'aventure coloniale, les héros qui avaient naguère donné à la France son empire étaient les derniers féodaux, ce qui, sous sa plume, est un compliment. Il fait référence aux soldats français. Citation. Ce ne sont ni les chantres lointains de la civilisation, ni les prédicateurs des droits de l'homme qui nous ont gagné des loyautés sans nombre parmi les populations de l'Empire disparu, mais les soldats, vestiges bien vivants d'une ancienne France juste, forte, guerrière et féodale. Fin de citation. Cette exaltation de la virilité militaire, du combat d'homme à homme, est caractéristique de la pensée fasciste. Là où Vénère dépasse les limites du délire, c'est lorsqu'il affirme que l'une des plus belles preuves de l'attachement des indigènes à notre œuvre a été le mélange des sangs sur le champ de bataille des conflits mondiaux. Je vous épargne la citation, mais enfin, en gros, c'est dans le sang mêlé des combattants indigènes et des combattants blancs que c'est noué le pacte d'honneur entre ces populations et nous. Les diverses rubriques et articles sont tout aussi parlants. Les critiques de livres présentent systématiquement les titres qui exaltent le combat pour l'Algérie française, la guérilla OAS à Oran, une biographie de Bastien Thierry, etc., etc. Partout, c'est le même étalage de bonne conscience, la même exaltation de l'œuvre française aux colonies. Citation dans un numéro de 2000. La présence française était faite aussi de prévention et de soins. La médecine coloniale française a d'ailleurs toujours été considérée comme la meilleure du monde. Oui, il était joli le temps des colonies. Fin de citation. L'autre, ou d'un certain point de vue, le même axe de bataille de la revue, c'est le combat contre l'islam. Ça, c'est vraiment une question très très prégnante dans toutes les livraisons de la Nouvelle Revue d'Histoire ou dans Enquête sur l'Histoire. Dès le numéro 1 de la Nouvelle Revue, Philippe Conrad, déjà cité, membre fondateur du GRES, lui aussi, titre un de ses articles, citation, « Les invasions arabes d'abord, celles des Turcs ensuite, une menace séculaire qui a marqué la conscience européenne. » Pour les rédacteurs de ces revues, l'Europe et l'islam sont en conflit séculaire, et j'ai relevé des termes dans les titres des articles consacrés à cette question, conflit, combat, violence, choc, voire guerre. Le numéro 4 de la Nouvelle Revue historique, Nouvelle Revue d'Histoire, est un dossier qu'on intitulé « Islam et islamisme ». Évidemment, c'est Ben Laden qui en fait la couverture. On parle essentiellement d'invasion islamique. Vénère, par exemple, déplore les conversions nombreuses, dit-il. On a vraiment l'impression d'une vague qui monte. Les conversions nombreuses de blancs ou d'européens ou de français, comme vous voulez, à l'islam. Donc, je vous épargne la citation qui est assez longue. Seulement la fin de la citation. Aujourd'hui que nous sommes affrontés à des défis inédits et mortels, moi j'aurais écrit confrontés à sa place, mais enfin, pour ce monsieur qui donne des leçons de français, aujourd'hui que nous sommes affrontés à des défis inédits et mortels, la question de notre identité, de nos valeurs propres, s'impose comme jamais, sinon sans doute quand s'effondrera l'ancienne romanité. Mais nos très lointains ancêtres, par cousinage de ce temps-là, ne disposaient pas des clés qui nous permettent de répondre et de renaître. Donc, vous voyez, le thème très propre également à la pensée de l'extrême droite, la décadence, mais la renaissance, en tout cas, on relève la tête face au danger. L'actualité de fin 2005 fournit à Vénère une occasion en or de rappeler son long combat. C'est bien un affrontement ethnique, on a employé l'expression ce matin, mais en prenant les distances nécessaires, mais lui ne prend aucune distance. C'est bien un affrontement ethnique que l'on vient d'assister, plaide-t-il dans un long article de la première livraison 2006 de la Nouvelle Revue d'Histoire. Ce que d'autres ont appelé la crise des banlieues, Vénère lui donne son véritable nom, c'était les émeutes du Ramadan 2005. Dans cette famille, on a donc de la suite dans les idées. Donc je vous ai présenté ces deux revues, non pas pour faire un quelconque appel à la censure, la loi est la loi. Bon, on pourrait peut-être, en regardant à la loupe, trouver certains moments où ils enfreignent la loi Guesso, par exemple, ou la loi de 72 sur l'antiracisme. Mais bon, il ne s'agit pas de, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de souligner que, certes, il y a parmi ces lecteurs cultivés de l'extrême droite, des gens qui achètent ces revues en toute connaissance de cause, mais il me semble qu'il est quand même particulièrement abusif et scandaleux de présenter depuis 15 ans des revues de ce type dans, au grand public qui parfois peut se laisser piéger. Je voudrais conclure pour dire que si j'y insiste aujourd'hui, et si nous y insistons aujourd'hui dans ce colloque, c'est que je pense, et je crois que nous pensons, qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène. La France de ce début de 21e siècle a tout de même fait parvenir au second tour d'une présidentielle un homme non seulement d'extrême droite, on le sait, mais je crois que ça n'a pas été suffisamment souligné, un homme qui postulait à la magistrature suprême, à entrer à l'Élysée, a été quand même un combattant de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen a fait les deux conflits. Les mauvaises langues disent qu'il n'a jamais été en première ligne, qu'il était quand même, il est arrivé en Indochine tout de suite après Dien Bien Phu, il s'est peut-être engagé trop tard, j'en sais rien, et en Algérie, on connaît les activités qu'il avait, où il prenait quand même pas beaucoup de risques face aux combattants du FLN. La France du début du XXIe siècle est également cette France qui a voté la loi de février 2005, et je vous rappelle quand même, et on l'a dit ce matin déjà, que deux des piliers du régime ont été quand même à l'initiative, même si après c'était des seconds couteaux qui ont été en première ligne, mais Michel Alliot-Marie et Philippe Douste-Blazy ont quand même été les parrains, enfin la marraine et le parrain de cette loi, donc le bras armé de la France et la voix de la France qui ont insisté sur les attaques positives. N'oublions pas non plus que la majorité enthousiaste a voté deux fois ce projet de loi, la première fois dans un certain silence, mais la deuxième fois, on peut dire que le vote de l'Assemblée nationale était sous les projecteurs et non seulement ils ont voté de la même façon, mais avec, je dirais même, une sorte de fierté de montrer qu'ils étaient fidèles à leurs premiers engagements, et dans un silence que je ne qualifierais pas par charité, mais dans un silence quand même assez inquiétant de la gauche française. Je voudrais également conclure sur le fait que ces manifestations nombreuses sont souvent le signe révélateur de passerelles entre la droite et l'extrême droite. J'ai commencé à le dire tout à l'heure en parlant des députés, en parlant d'un certain nombre de moyens d'expression. Je vous rappelle quand même que si vous lisez Le Figaro Magazine, le Figmag, vous y trouvez régulièrement la signature de Michel Thauriac, par exemple, qui est un ancien du Corps expéditionnaire, qui est un de ceux qui avait fomenté la tentative de putsch, plutôt avortée, plutôt minable d'ailleurs, d'avril 54 contre la 4e République, la fameuse fois où Pleven avait été giflé par des parachutistes. Thauriac était dans l'affaire, donc c'est lui qui aujourd'hui, c'était un des suppôts de l'ancienne association des parachutistes d'Indochine. C'est lui qui aujourd'hui écrit tous les articles sur l'Indochine dans le Figaro Magazine, mais également qui fournit un certain nombre de reportages à la télévision française. Jean-Pax Meffray, que certains ont appelé le chanteur des pieds noirs, qui est un homme d'extrême droite, qui a été un temps rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine. J'avais d'autres exemples, je vais peut-être achever là. Donc je voulais vous dire que, tout simplement, pour conclure d'une formule, que l'air du temps est quand même assez inquiétant. Évidemment, ça ne signifie pas que la vague monte et que nous sommes tous impuissants devant ces menaces, mais je crois quand même qu'il est nécessaire que nous soyons attentifs et que, évidemment, je conclurai par un euphémisme, évidemment, la loi de février 2005 n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel auparavant serein.